podcast RFHT.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast RFHT. Je suis Aurélien Le Breton, médecin à Clermont-Ferrand, et aujourd'hui ce podcast sera consacré au vieillissement dans l'hémophilie. Pour animer ce podcast, je serai entouré de Jean-Baptiste Valentin. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Aurélien, merci de m'avoir invité à ce podcast. Je suis médecin au CHU de Tours, au centre de compétences des maladies hémorragiques constitutionnelles.
Donc aujourd'hui, ce podcast va être consacré au vieillissement dans l'hémophilie. Le vieillissement dans l'hémophilie amène de nombreuses questions et c'est vraiment un challenge pour les cliniciens. Donc Jean-Baptiste, si tu es d'accord, je vais te poser quelques questions et on va commencer. Pourquoi finalement l'avancée en âge est un problème chez les hémophiles tout particulièrement?
Alors c'est avant tout une bonne nouvelle pour nos patients hémophiles, c'est que les traitements, la prophylaxie depuis plusieurs décennies a permis d'allonger l'espérance de vie de manière très notable et d'arriver à une espérance de vie proche de la population générale. Il y a une amélioration de la qualité de vie en parallèle, donc ça c'est très positif. Mais évidemment avec le vieillissement, on voit apparaître des complications propres à l'évolution de l'hémophilie, avec notamment des arthropathies hémophiliques relativement avancées pour les patients les plus âgés, mais aussi l'apparition de pathologies qu'on voit dans la population générale, comme les cancers, les pathologies cardiovasculaires et l'ostéoporose, qui est un problème très très particulier quand même dans cette population.
Donc c'est vrai qu'on reste avec de nombreuses questions sur ce ratio bénéfice-risque entre d'un côté, pour certaines pathologies du vieillissement, un risque hémorragique qui est relativement diminué par la prophylaxie et parfois l'introduction, on en reparlera tout à l'heure, d'un traitement anticoagulant ou antiplaquettaire qui peut venir majorer ce risque hémorragique. Tu nous as parlé tout à l'heure également des traitements. Alors moi j'avais une question concernant notamment les traitements non pas anti-hémophiliques mais anti-infectieux, parce qu'on sait que la population hémophile a souffert de pathologies infectieuses chroniques de type VIH ou VHC. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des vigilances particulières chez ces patients-là qui ont une infection chronique au VIH ou au VHC?
Alors, tout à fait Aurélien, tu fais bien d'insister sur ce point. C'est vrai que la population âgée actuelle a très très régulièrement été infectée par le VIH ou le VHC, voire co-infectée par ces deux virus. On a aujourd'hui des traitements très efficaces. Pour le VIH, on parle d'infections chroniques qui sont dans l'immense majorité des cas bien contrôlées. Donc le VIH ne pose pas de problème en soi dans l'immense majorité des cas, mais ces traitements pris au long cours induisent deux risques, principalement une majoration du risque cardiovasculaire, et ça il faut être très vigilant sur ce point, notamment un risque d'hypertension artérielle, et aussi une majoration du risque d'ostéoporose. Donc il y a ces deux points de vigilance pour le VIH. En ce qui concerne le VHC, comme tu le sais, depuis 2016, ils ont quasiment tous été traités, les patients hémophiles, quel que soit leur degré de fibrose hépatique. Donc ça, c'est relativement simple, mais il faut pas oublier que pour les patients qui ont été traités un peu tard, c'est-à-dire qui avaient déjà une fibrose sévère, voire une cirrhose, il y a un risque persistant de carcinome hépatocellulaire et donc il faut garder une surveillance hépatique très régulière chez ces patients.
Bah effectivement, je pense que tu fais bien de repréciser ce point-là. Ce n'est pas parce qu'on a été traité et guéri du VHC qu'on est absolument dispensé du suivi. Et justement, tu nous parlais tout à l'heure des complications, notamment cardiovasculaires, en lien avec certains traitements du VIH notamment. Et en fait, la population hémophile vieillissant actuellement, on a plusieurs questions qui se posent sur ces pathologies cardiovasculaires. Et notamment, on avait en tête, ou en tout cas en lien avec cette maladie hémorragique, on pouvait supposer que ces pathologies cardiovasculaires, et notamment thrombotiques, pourraient être moins fréquentes chez l'hémophile puisqu'ils pourraient être considérés comme naturellement anticoagulés. Qu'est-ce que tu en penses actuellement, Jean-Baptiste? Et actuellement, les données publiées, qu'est-ce qu'elles nous permettent d'avancer comme données?
comme souvent dans l'hémophilie, on a des données qui sont relativement parcellaires, mais ce qui est une certitude, c'est que l'hémophilie ne protège pas totalement du risque cardiovasculaire. En ce qui concerne les facteurs de risque, ils sont au moins aussi fréquents dans les populations hémophiles à âge comparable par rapport à la population générale. On a même probablement un risque d'hypertension artérielle qui est plus élevé. Alors, est-ce que ça vient des traitements anti-VIH? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la vigilance et la prévention sur les facteurs de risque cardiovasculaire, elle doit être la même que dans la population générale, j'ai envie de dire. Notamment en ce qui concerne l'hypertension, j'insiste, c'est pas seulement un risque cardiovasculaire, mais c'est aussi un risque d'hémorragie intracérébrale. Et donc, surtout chez les patients âgés, surtout quand ils peuvent commencer à chuter. Donc ça, il faut être vraiment très vigilant sur ce point-là. Alors après, qu'en est-il de la thrombose à proprement parler, de l'ischémie? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils font de l'athérome. Ça, ils sont pas exempts d'athérome du tout. Ça, on a des données très très fiables là-dessus et très sûres. Après, ce qui semble quand même rassurant, c'est que autant ils ont de l'athérome, autant ils vont moins thromboser et moins mourir quand même de complications cardiovasculaires en l'état actuel des connaissances. Hein. Alors après, évidemment, il faudra être vigilant avec la nouvelle génération de traitements qui est actuellement en train de prendre une place de plus en plus prépondérante, et peut-être avec l'émicizumab, mais d'autres. Quel va être le risque thrombotique de ces patients-là, chez ces patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire? Pour l'instant, on n'a pas de données très solides, tu t'en doutes, on manque de recul.
Merci Jean-Baptiste sur ces précisions. C'est vrai que on ne répétera jamais assez, mais avec l'avancée en âge, il faut, à mon avis, faire une attention toute particulière aux différents facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, comme tu l'as précisé, l'hypertension artérielle, mais il ne faut pas oublier également le diabète, le surpoids qui est quand même relativement important dans la population générale, et tout cela pour prévenir les pathologies cardiovasculaires. Donc, on va rester dans le domaine de la pathologie cardiovasculaire et, comme on avait pu aborder tout à l'heure, on se pose différentes questions lorsqu'un hémophile a une pathologie cardiovasculaire thrombotique. C'est notamment comment traiter ces accidents, par exemple cardiaques, de type infarctus du myocarde, et en fait, comment et quels conseils tu pourrais nous donner pour la gestion de ces pathologies-là?
Alors c'est évidemment un challenge et ça reste du cas par cas. Il est difficile de faire des généralités, d'autant plus qu'on manque de données très solides encore une fois, puisque c'est toujours des petites séries de patients sur les données publiées. Donc il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de choses très très solides. Mais on peut dire quelque chose quand même, quelques données un petit peu sur la prise en charge, notamment en cas de syndrome coronarien aigu, puisque dans ce cas-là, les patients auront quasiment tous une coronarographie pour une angioplastie en urgence. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est que bon, chez l'hémophile A mineur, il ne faut pas utiliser la desmopressine. Donc, d'une manière générale, ce sera les facteurs anti-hémophiliques qui seront utilisés en pré-geste. On préférera la voie radiale parce qu'il y a moins de complications, notamment moins de complications hémorragiques. Pendant le geste, il est à peu près établi maintenant qu'on peut utiliser les stents actifs et que c'est les stents actifs qui doivent être utilisés en première intention, même dans cette population particulière, puisque les bioantiagrégations plaquettaires post-pose de stent sont de plus en plus courtes et sont de l'ordre de 4 semaines maintenant, même avec les stents actifs. Alors, il faudra faire évidemment attention pour ces patients qui auront une antiagrégation plaquettaire au long cours, si un stent est mis en place, en fonction du taux de facteur anti-hémophilique basal, va peut-être mettre en place une prophylaxie. Là, il n'y a pas de consensus, mais il ressort que peut-être que quand il y a une double antiagrégation plaquettaire, il faut maintenir le taux de facteur 8 ou de facteur 9 entre 5 et 15% résiduel. Et en cas de mono-antiagrégation antiplaquettaire, un taux entre 1 et 5%. Mais ça reste du cas par cas, en fonction du phénotype hémorragique, évidemment. Ils ont probablement autant de fibrillation atriale, hein, les patients hémophiles à âge comparable que la population générale, mais probablement aussi moins de complications ischémiques et notamment moins d'AVC ischémiques. Ce qui fait que la prise en charge finalement ne doit probablement pas être exactement la même que pour les patients en hémophile, puisque les scores et les décisions thérapeutiques validées dans la population générale dépendent d'un risque thrombotique mis en balance avec un risque hémorragique. Évidemment, chez l'hémophile, ce sera différent, puisqu'on a un risque hémorragique qui est supérieur. Il n'y a pas de consensus, encore une fois, il n'y a pas de données très solides, mais certains disent que si le taux de facteur anti-hémophilique est supérieur à 20%, on peut probablement les anticoaguler relativement sereinement avec des prises de décision similaires à la population générale. Par contre, si le taux de facteur anti-hémophilique est inférieur à 20%, probablement qu'il faut augmenter un petit peu le cut-off des scores CHA2DS2-VASc, peut-être à 4, avant de décider de mettre une anticoagulation curative. Et dans ce cas-là, il faudra probablement mettre en parallèle une prophylaxie par facteur anti-hémophilique. Alors, un point aussi important, c'est qu'on choisira probablement plus facilement un AOD qu'un AVK, mais ça, c'est à peu près le cas aussi dans la population générale, puisque en termes de balance bénéfice-risque hémorragique, on est en faveur. Un dernier point important, c'est qu'on a aussi maintenant des solutions plus radicales dans le cadre de la fibrillation atriale avec des possibilités de fermeture de l'auricule. Et c'est vrai que pour les hémophiles, ça peut être une solution de choix à discuter évidemment avec son cardiologue.
Oui, effectivement, comme tu le précises, les fermetures d'auricules sont parfois une bonne solution, puisqu'a priori, dispensent d'un traitement anticoagulant au long cours. Donc, on a une solution qui est relativement intéressante du point de vue bénéfice-risque. Donc, on a parlé des pathologies, on va dire, cardiaques. Concernant la thrombose veineuse, est-ce qu'on a des informations relativement récentes sur justement cette thrombose veineuse qui survient chez l'hémophile et qui nécessite justement un traitement anticoagulant, ou parfois, lorsqu'on est notamment en période post-opératoire, une prévention de cette thrombose veineuse? Quelles sont les données relativement récentes concernant cette pathologie?
Et là encore, c'est un challenge, hein, Aurélien. Comme tu le sais, c'est compliqué. Alors, on a pas de données très très récentes, pas de choses très nouvelles là-dessus. Mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de consensus sur la prise en charge de cette complication. Ce qui est sûr, c'est que la thrombose veineuse, c'est quand même très rare dans l'hémophilie. C'est très rare et c'est même ça reste rare même dans les situations à haut risque thrombotique que sont les situations post-opératoires telles que la prothèse totale de hanche ou prothèse totale de genou. Donc globalement, si c'est une situation qui est exceptionnelle à gérer. Par contre, si elle survient, c'est un peu challenge parce qu'il faut à la fois anticoaguler, mais en même temps mettre probablement une prophylaxie par facteur anti-hémophilique si les taux de facteur 9 sont inférieurs à 20 ou 30%. Il n'y a pas vraiment de consensus sur le seuil. Donc ça, c'est pour la prise en charge thérapeutique. Elle sera probablement plus courte, c'est-à-dire que l'anticoagulation sera probablement plus courte dans cette population. On aura envie de traiter peut-être moins longtemps, mais là encore, il n'y a pas de données solides comme tu t'en doutes. En ce qui concerne la thromboprophylaxie post-opératoire, là, personne n'est vraiment d'accord. On sait qu'il y a à peu près la moitié des centres en France qui vont avoir tendance à mettre encore une HBPM en post-opératoire. En fonction du type d'hémophilie, du type de chirurgie et pendant la période où on va les traiter par facteur anti-hémophilique de manière intensive. Et puis l'autre moitié des centres ne va pas faire ça, ne va pas mettre de thromboprophylaxie médicamenteuse systématique. Alors, je vais juste te dire ce que nous on fait à Tours. On a tendance à ne pas mettre de thromboprophylaxie médicamenteuse, en tout cas chez les hémophiles sévères, même en cas de chirurgie orthopédique lourde. Par contre, on utilise facilement la compression pneumatique intermittente quand c'est possible.
D'accord, merci Jean-Baptiste pour ces précisions. Et finalement, la transition est toute trouvée avec le dernier volet de ce podcast, puisqu'on va quitter le champ des pathologies thrombotiques pour aller finalement, comme tu en as parlé, vers le côté ostéo-articulaire, et notamment tout ce qui est ostéoporose. Alors, on a des réelles questions actuellement sur l'ostéoporose chez la population hémophile. Alors, est-ce que, selon toi, quel lien pourrait exister entre l'hémophilie et l'ostéoporose et quels pourraient être les mécanismes physiopathologiques mis en jeu?
Alors merci Aurélien de ta question. C'est vrai que c'est un sujet qui est de plus en plus, enfin qui est revenu à la mode ces dernières années, notamment avec l'arrivée des traitements non facteurs anti-hémophiliques, on va dire. On sait que l'hémophilie et l'ostéoporose, c'est un problème ancien en fait, puisque la fréquence de l'ostéoporose, ça on a des données assez solides. Il y a une fréquence très élevée de cette pathologie chez les hémophiles âgés de plus de 50 ans, puisqu'on a des données avec 44% de fréquence dans l'hémophilie sévère, 25% dans les formes modérées, 39% dans les formes mineures. Donc on est sur des fréquences très élevées, même dans les formes mineures d'hémophilie. Alors pourquoi cette fréquence élevée d'ostéoporose? C'est multifactoriel. On a des pistes. Alors, le déficit en facteur 8 ou en facteur 9 aurait un impact sur la formation osseuse qui serait diminuée. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, on a une augmentation de la résorption osseuse, probablement induite par l'arthropathie hémophilique, par l'inflammation articulaire, par les traitements anti-VIH. Ça, on en avait parlé en début de podcast, mais aussi par la diminution d'activité physique induite par cette arthropathie et les problèmes hémorragiques qui sont survenus au fur et à mesure de la vie.
Et concernant le risque de fracture, notamment, qu'en est-il actuellement? Est-ce qu'on a des données récentes?
Alors, on a quelques données, effectivement. Bon, c'est probablement un risque fracturaire plus élevé que dans la population générale. Avec bah, les localisations classiques des fractures ostéoporotiques, avec une atteinte de la hanche, des vertèbres, de l'avant-bras et des épaules principalement, surtout chez des patients bah, qui sont handicapés, âgés par leur arthropathie hémophilique, donc qui vont avoir un risque de chute plus important.
Très bien, merci Jean-Baptiste pour ces précisions. Et donc moi j'ai deux dernières questions concernant cette ostéoporose. C'est finalement comment est-ce qu'on peut prévenir cette ostéoporose et est-ce qu'il faut la dépister systématiquement?
Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de données consensuelles, encore une fois, sur cette question. Mais en ce qui concerne la prévention, c'est probablement très important, hein. On dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, c'est sûrement vrai, vu les fréquences de l'ostéoporose qu'on voit dans les données. Alors, probablement que la prophylaxie, qui est de plus en plus utilisée, pas pour l'ostéoporose, mais pour prévenir le risque hémorragique, a un effet bénéfique sur ça. On a des données un petit peu fondamentales là-dessus, montrant que le facteur 8 ou le facteur 9 auraient un rôle protecteur. Néanmoins, ce qui est un peu discordant, c'est que quand on voit les populations hémophiles mineures, on voit qu'ils ont quand même beaucoup d'ostéoporose aussi, donc c'est probablement nécessaire, mais pas suffisant. Alors, est-ce qu'on a la même protection avec les nouvelles thérapeutiques, avec les emicizumab et autres? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop, hein. Après, comment on peut agir, nous, dans le cadre de notre suivi? Bah, je pense qu'il faut être très vigilant à l'alimentation, qu'ils aient des apports calciques suffisants pour l'âge, doser la vitamine D quand même de manière régulière et pas hésiter à supplémenter si taux est inférieur à 20 nanogrammes par ml. Ça semble assez simple et peu risqué. Et puis, encourager l'activité physique, encore une fois, hein, l'activité physique plutôt en charge. C'est vrai qu'on a beaucoup favoriser la pratique de la natation pendant des années, c'est bien, mais une activité en charge est probablement meilleure pour la prévention de ce risque ostéoporotique. Alors, ta deuxième question, c'était le dépistage systématique. Là, si on regarde le PNDS, si on regarde les données publiées, ben, il n'y a pas de consensus. Il n'est pas écrit dans le PNDS qu'il faut le rechercher systématiquement. Ce qui est sûr, c'est que si il y a un patient hémophile fait une fracture à faible cinétique, c'est-à-dire spontanée ou sûrement sur un choc mineur. Là, bien sûr, il faut penser à l'ostéoporose et faire une ostéodensitométrie. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est évident et c'est pareil pour la population générale. Quand on voit la fréquence de l'ostéoporose, quelle que soit la sévérité de l'hémophilie, au-delà de 50 ans, c'est vrai qu'on peut raisonnablement se poser la question de faire un dépistage systématique. Mais là, c'est un avis presque personnel et certains auteurs le proposent, il n'y a pas de consensus. En dessous de 50 ans, C'est probablement encore moins consensuel, mais c'est vrai que si les patients ont des facteurs de risque, alors au moins deux facteurs de risque associés, peut-être que ça peut se discuter. Ces facteurs de risque étant un indice de masse corporelle inférieur à 19, un traitement anti-HIV ou une arthropathie hémophilique avancée.
Merci Jean-Baptiste pour ces précisions. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Donc merci Jean-Baptiste pour tes interventions. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi.
Et bien de même, Aurélien, merci de m'avoir invité à ce podcast et à une prochaine fois, j'espère.
Et c'est vrai que le vieillissement dans la population hémophile nous amène donc, comme vous avez pu l'entendre, de nombreuses questions et de nombreuses problématiques qui sont encore loin d'être résolues actuellement, d'où l'intérêt de faire partager ensemble les données dans des études, etc., pour augmenter justement les données concernant cette maladie rare et ses complications qui sont de plus en plus fréquentes. Et on n'insistera jamais assez sur l'intérêt d'un suivi régulier dans les centres de l'hémophilie et ce rôle de chef d'orchestre que peut avoir le médecin spécialiste de l'hémophilie avec les différents spécialistes avec lesquels on peut collaborer. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast pour la revue francophone d'hémostase et de thrombose, et je vous remercie de nous avoir suivis.
Podcast RFHT.